Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors que deux séries télévisées ont pris les Borgia pour sujet, l'une britannique réalisée par l'Irlandais Neil Jordan, auteur d'Entretien avec un vampire, l'autre française réalisée par l'Allemand Olivier Hirschbiegel, auteur de La Chute et qui sera bientôt diffusée sur Canal+, Franck Ferrand ne pouvait pas passer à côté d'un tel sujet. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. La sortie des deux séries télé est évidemment accompagnée d'une floraison d'ouvrages chez de nombreux éditeurs et tout à l'heure nous recevrons Henri Pigayem, auteur chez Télémac, d'une série romanesque intitulée « La splendeur des Borgia ».
Alors il faut dire que tous les ingrédients d'une belle histoire sont réunis là.
Ah oui, on peut le dire, hein, le pouvoir, l'intrigue, la haine, la trahison, la passion amoureuse, la luxure sous toutes ses formes et tous les plaisirs. Et tout ça, bien sûr, dans le cadre fastueux de la Renaissance italienne, de l'apogée de la papauté et des guerres incessantes qui ravageaient la belle péninsule.
Alors si vous souhaitez prendre part à l'émission, envoyez-nous dès à présent des messages via le site internet d'Europe 1.
Nous allons, si vous le voulez bien, Julia, ouvrir cette évocation par un coup de projecteur sur l'un des personnages les plus marquants de cette terrible famille, la sublime Lucrezia, disons-nous Lucrèce.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Les Borgia, je vous le disais, un nom qui évoque immanquablement le stupre, la violence, le dévoiement de la papauté au tournant du XVIe siècle, à cette époque où l'Italie était déjà depuis longtemps dans ce qu'on appellera plus tard la Renaissance. On imagine généralement que les Borgia descendaient d'une famille princière italienne. En fait, ils n'étaient que de petite noblesse et n'avaient rien à voir au départ avec l'Italie puisqu'ils étaient originaires de la péninsule ibérique, d'Aragon, du côté de Valence. C'est Alonso Borgia, dirons-nous, hein, archevêque de Valence, devenu donc à l'italienne Alfonso Borgia, qui en 1455, lors de son élection sur le trône de Saint-Pierre, avait fait la très récente fortune de la famille et l'avait implantée à Rome. Ce pape, il portait le titre de Calixte III, le nom de règne, devrais-je dire. Ce Calixte III avait fait venir à ses côtés son neveu Rodrigo, qui à l'époque avait 25 ans. Il en avait fait un cardinal. Eh bien, c'est ce cardinal Borgia qui, en 1492, devient pape à son tour sous le nom d'Alexandre VI. Or, avant d'être pape, le cardinal avait une maîtresse attitrée. Oh, ça, c'était tout à fait courant à l'époque. Et cette maîtresse, Vanozza de Catanei, lui a donné plusieurs enfants dont deux sont devenus très célèbres et justifient que je m'attarde sur eux aujourd'hui. Ce sont le terrible et génial César, on y reviendra tout à l'heure, et puis sa sœur, la sulfureuse Lucrèce. Je dis sulfureuse pour rester essentiellement fidèle à la légende. Mais en fait, il est très important de comprendre qu'il y a deux Lucrèce Borgia, si vous voulez. Il y a d'un côté le personnage réel, celui de la Renaissance, dont je vais vous raconter l'incroyable destin. Et puis il y a le personnage fictif, celui du drame de Victor Hugo, créé en 1841 et qui est un des sommets du romantisme français. Comme d'autres dramaturges, comme beaucoup de romanciers et de cinéastes qui ont été fascinés par l'histoire de Lucrèce Borgia, Victor Hugo en a fait une sorte de monstre, à la fois vicieuse, empoisonneuse, incestueuse même, un personnage retors et sans morale, capable de coller des frissons aux dames exaltées de la monarchie de Juillet. Une fois de plus, je dois vous dire que la vérité est très éloignée de ce portrait et que la véritable Lucrèce, la Lucrèce de chair et de sang, ne collectionnait pas en vérité tous ses travers. Ce qu'il y a de frappant, c'est que son histoire, la véritable histoire, est beaucoup plus belle, beaucoup plus forte, beaucoup plus étonnante que la légende qu'on a pu en tirer. Avant toute chose, laissez-moi camper la toile de fond. Nous sommes donc à Rome, au Vatican, dans les dernières années du XVe siècle, ce que les Italiens appellent le Quattrocento. La basilique Saint-Pierre telle que nous la connaissons n'a pas encore été reconstruite, ni les places et les avenues que nous voyons aujourd'hui. Imaginez plutôt à la place des espèces de ruelles, des placettes, des édifices plus modestes, plus tortueux, plus amusants sans doute, mais pas moins riches. Car le pape alors vit au sein de la cour la plus fastueuse du monde.
cavaliere di Spagna, cavalca per la via, a piè d'una montagna, cantando per amor, d'una fantina, voltati in cuore.
Un extrait sur Europe 1 du titre Une cavalière d'Espagne. Restez avec nous, on retrouve Franck Ferrand dans un court instant sur Europe 1. Il nous parle aujourd'hui des Borgia.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck nous relate aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire de la famille Borgia, plus précisément à la une de ce récit, Lucrèce.
Lucrèce qui est donc la fille que le cardinal Borgia a eue avant d'être élu sur le trône de Saint-Pierre. Il est devenu Alexandre VI. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pape à cette époque est un souverain à la fois spirituel et temporel. Pendant des siècles, le temporel n'avait été que le bras armé du spirituel, disons-le. Mais peu à peu, c'est vrai que les priorités se sont inversées et le spirituel n'est plus, sous les Borgia, que la caution du temporel. En fait, le pape est devenu une sorte de chef d'État italien, un prince soucieux de son autorité sur ses États, un dirigeant à la tête d'un gouvernement, d'un trésor et bien sûr d'une armée. Or, n'oubliez jamais que ce prince est élu, évidemment. Il est élu par le collège le Sacré Collège, le collège des cardinaux. Il doit donc s'appuyer sur un réseau de soutien, j'allais dire une sorte de réseau féodal. Et il doit s'appuyer d'abord sur sa propre famille. Je vous ai dit que Calixte III avait eu recours à son neveu, le futur Alexandre VI. Tous les papes font la même chose. Le neveu, en latin, ça se dit le népos. C'est l'origine du népotisme qui n'est pas resté, si vous voyez ce que je veux dire, l'apanage de la papauté et de la Renaissance. Mais évidemment, ce népotisme est très répandu à Rome. Les mœurs au Vatican sont à l'époque très relâchées. Les couloirs sont pleins d'enfants bâtards semés par les cardinaux. On vit dans un luxe inouï, pour ne pas dire dans la luxure. D'ailleurs, on donne des banquets qui font plus songer à des bacchanales antiques qu'à de pieuses agapes. Cette débauche est sans aucun doute le signe d'une profonde décadence de cette institution omnipotente qu'est à l'époque l'Église catholique, d'où certaines réactions brutales, comme la révolution de Jérôme Savonarole à Florence, ou très bientôt comme le mouvement de la Réforme qui va s'emparer de l'Europe centrale, puis de l'Est et du Nord. Mais, comme l'a dit André Castelot avec son humour habituel, l'Église avait les reins solides et en avait vu bien d'autres. Et dans cet environnement délétère, on peut dire que le clan Borgia est bien décidé à profiter du pontificat d'Alexandre VI pour asseoir sa puissance finalement récente, même assez neuve, sur l'Italie. Parmi les pièces maîtresses du jeu d'échecs figurent deux pions majeurs, outre le pape lui-même, c'est César, son fils, qui est donc gonfalonière, c'est-à-dire c'est le général en chef des troupes pontificales, et puis sa fille Lucrèce, la plus belle créature que l'on puisse imaginer. Pinturicchio l'a représentée au Vatican sous les traits de Sainte Catherine d'Alexandrie, et on découvre sur ce tableau une adolescente lumineuse, à l'opulente chevelure blonde, avec des traits fins, sensuels, une espèce de bouche incroyable, la bouche très pulpeuse, des yeux à faire perdre la tête à tout le consistoire. On comprend rien qu'à ce portrait que les témoins de l'époque aient tous vanté la beauté surprenante de Lucrèce. Son père, Alexandre VI, le pape, est bien décidé à utiliser la main de sa fille comme argument diplomatique. Et pour Lucrèce, on peut dire qu'à ce moment-là, ce sont les tourments qui commencent. Je vous ai dit que les Borgia étaient d'origine espagnole. Dans un premier temps, le cardinal Rodrigo Borgia avait choisi pour sa fille un fiancé espagnol qui était issu de la riche famille des comtes d'Oliva. Il s'appelait Chenteria Iora, c'était un jeune chérubin de 15 ans. Certes, il avait toutes les qualités et Lucrèce était toute heureuse de devenir sa femme. Seulement, à mesure que le prestige du père grimpait, l'intérêt pour lui de cette petite alliance diminuait, évidemment. La négociation avec une autre famille va s'imposer, la famille des Aversa, jusqu'au jour où le cardinal donc est élu pape, où il devient Alexandre VI, et là maintenant il faut une alliance princière. On commence à lorgner chez le pape du côté du duché de Milan, et on va donner la main de Lucrèce au neveu du souverain régnant de Milan, à Giovanni Sforza. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'à l'époque, Lucrèce n'a toujours que 13 ans, hein, on ne perd pas de temps dès lors qu'il est question d'alliance politique. En octobre 1492, la jeune Lucrèce rencontre son fiancé, tout se passe plutôt bien. Le mariage par procuration a lieu le 12 juin 1493, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que Giovanni Sforza n'est pas un mari idéal, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une espèce d'homme taciturne, il est veuf depuis 3 ans, il se passionne surtout pour le métier des arts, et au fond, Lucrèce n'est pas pressée de le rejoindre. C'est lui qui est obligé de venir la chercher à Rome, et on se demande si ce qu'il vient chercher c'est plus la jeune épouse ou carrément l'extraordinaire dot qui l'accompagne. En fait, les relations entre le Vatican et le duché de Milan se dégradent bientôt à vue d'œil, ce qui veut dire qu'assez bientôt, les intérêts d'Alexandre VI et de son fils César Borgia, les intérêts de la papauté si vous voulez, vont rejoindre les réticences de Lucrèce envers son trop insipide mari.
De l'histoire revient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pouvoir, intrigue, passion, trahison sur Europe 1. Nous sommes en pleine renaissance italienne au cœur de l'histoire de la famille Borgia, Franck.
Alors les Borgia, père et fils, hein, le pape Alexandre VI et son fils César ont choisi de marier la fille de l'un et la sœur de l'autre, à Giovanni Sforza, qui n'est pas un bon mari. Lucrèce s'ennuie beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble même qu'elle souffre auprès de ce mari. Et peu à peu, les intérêts de la papauté de cette famille Borgia évoluant, tout le monde est d'accord pour se débarrasser du mari gênant. Alors, César se charge de lui faire... C'est une véritable scène de théâtre. Hein. Il se charge de lui faire savoir qu'il est... j'allais dire en commettant un terrible anachronisme dans son collimateur, en tout cas qu'il est en grand danger. On voit Sforza s'enfuir... à bride abattue, sa femme fait semblant, mais ça c'est pour la galerie, d'aller le rejoindre, et toujours pour la galerie, le pape s'y oppose. En juin 1497, Lucrèce entre au couvent des Dominicaines de San Sisto sur la Via Appia, donc tout près de Rome. Ça va lui éviter du reste d'être là au moment de l'assassinat de son frère Juan ou Juan quelques jours plus tard. Est-ce que César est à l'origine de cet assassinat ? Nombreux sont ceux qui le pensent. Et puis, quelques jours avant Noël de la même année, donc 1497, le fameux mariage est annulé par le Vatican pour cause de non-consommation. Lucrèce est déclarée vierge, ce qui ne l'empêche pas de rentrer à Rome et d'accoucher dans la foulée, en mars 1498, d'un petit Giovanni, drôle de vierge, hein, vous avouerez tout de même. L'histoire l'appellera à cet enfant, d'après une bulle de son grand-père, Infants Romanus, c'est-à-dire l'enfant de Rome. Et chacun y va de son hypothèse quant à la paternité de l'enfant. Est-ce qu'il s'agirait du joli camérier Perotto, qui du reste a été retrouvé quelque temps plus tôt pieds et poings liés dans le Tibre? Est-ce qu'il s'agirait de César lui-même, dont on sait qu'il a toujours été amoureux de sa sœur? Et pourquoi pas du pape? Après tout, on serait en présence d'un inceste effrayant, mais quand il est question des Borgia, tous les fantasmes sont bons. En fait, nombreux étaient les prétendants qui tournaient autour de Lucrèce comme des oiseaux de proie. Il y avait Antonello Sanseverino, Francesco Orsini, enfin en un mot, tous les Romains de haut rang qui essayaient comme ça de s'allier avec le pape et avec cette famille tellement montante des Borgia. Seulement, je vous ai dit que Lucrèce n'était qu'un pion sur l'échiquier de la diplomatie vaticane. Et Alexandre VI, le pape, va se servir d'elle pour se rapprocher de Naples. Naples qui avait été conquise 2 siècles plus tôt par le royaume d'Aragon. Royaume d'Aragon depuis fondu dans la couronne d'Espagne, je ne vais pas trop entrer dans toute cette géopolitique de la Méditerranée de l'époque. Naples où règne le roi Alfonso II. Ce roi a un fils bâtard qui s'appelle le duc de Biscellia, et il a aussi une fille. Et voilà les accords, on dit qu'on va marier le petit duc de Biscellia à Lucrèce Borgia, et puis la fille du roi, elle épousera plus tard le fils Borgia. Le petit bâtard du roi de Naples, c'est en fait un garçon très charmant, si l'on en croit les témoins, le plus bel adolescent qu'on ait jamais vu à Rome, ce qui n'est pas peu dire. Et dès qu'elle aperçoit son nouveau mari, Lucrèce tombe folle amoureuse de cet Adonis qui, pour sa part, s'enflamme pour la sublime jeune femme, à la réputation certes un peu sulfureuse. Le mariage a lieu le 21 juillet, donc de cette année 1498, je suis en train de chercher la description que nous donne un témoin de l'époque. Il nous dit que Lucrèce porte une robe blanche de toile de cambrai, avivée par des bouffants de, vous savez, c'est des, comme des,
on donne
de l'ampleur sur les épaules, notamment, des bouffants de satin cramoisi. Et dans ses cheveux qui ont l'air, nous dit-il, de fil d'or, on a placé d'énormes perles. Elles sont grosses comme des pois. Vous imaginez cette chevelure dorée constellée de perles, sublime mariage donc. Et pour Lucrèce et Don Alfonso, ce sont deux années de pur bonheur qui suivent. Non seulement ils sont très amoureux l'un de l'autre, mais ils partagent une même passion pour l'art et pour les artistes. On les voit plusieurs fois dans l'atelier où Michel-Ange est en train de sculpter sa célèbre Pietà, enfin celle qui va devenir célèbre. Or, ce qu'il faut vous dire, c'est que le roi de Naples n'honore pas sa parole dans cette affaire. Il ne donne finalement pas la main de sa fille à César, qui est furieux, qui par ailleurs est jaloux de son petit beau-frère, trop charmant, et dont sa sœur finalement, dont Lucrèce trop éprise. César, pour l'instant, est pris par la grande politique. Vous savez que c'est lui dont Machiavel fera le modèle de son fameux prince. Pour le moment, il fiche une paix royale à sa sœur parce qu'il est en France, chargé de négocier l'annulation du mariage de Louis XII en vue de son remariage avec la ci-devant reine Anne de Bretagne. Lui-même, d'ailleurs, César va se marier là-bas, une héritière du royaume de Navarre, Charlotte d'Albret. Le problème, c'est qu'il va finir un jour par rentrer à Rome. Et le jour où César Borgia rentre à Rome, eh bien, c'est la fin de la paix pour les deux tourtereaux. Oh, pas besoin d'être devin pour imaginer qu'à partir de ce moment-là, la vie du petit Don Alfonso est en danger. Il est obligé de s'enfuir, d'aller chercher refuge dans le palais des Colonna. Et puis, c'est là qu'intervient le drame du 15 juillet 1500. Ce soir-là, quand je dis ce soir, ça se passe en pleine nuit, le petit duc de Bichel va chercher sa femme qui se trouve auprès de son père. Il est accompagné d'un écuyer et d'un gentilhomme. Alors il monte les degrés de Saint-Pierre, l'ancienne Saint-Pierre. Et par cette belle nuit d'été, des pèlerins sont là. Il y a des mendiants sur la place. Et au moment où les trois hommes passent sous la loggia où le pape est en train de donner sa bénédiction, eh bien, quelques-uns de ces mendiants se lèvent et attaquent à coups de poignard Alphonse et ses compagnons. Le duc tombe en poussant un cri. Les spadassins veulent l'entraîner pour l'achever et jeter son corps dans le Tibre, mais la garde palatine qui a été alertée par tout cet risque, par ce vacarme, sort du Vatican. Les meurtriers n'ont plus qu'à s'enfuir et ils rejoignent de petits groupes de cavaliers qui, tapis dans l'ombre aux quatre coins de la place, sont chargés de protéger la retraite des tueurs. Vous imaginez le malheur terrible pour Lucrèce qui sanglote. Son père essaiera tout ce qu'il peut pour essayer de la consoler, mais elle sera, on peut le dire, jusqu'à la fin de ses jours, inconsolable de la mort de son deuxième mari. Alors, il y aura un troisième mari, hein, et évidemment, Alphonse d'Este, et on verra un jour Lucrèce régner. On est là à partir de 1505 sur la cour d'Este. Le pape Alexandre est mort à ce moment-là depuis un an. C'est un nouveau pape qui a été élu et qui s'entend très mal avec César Borgia, qu'il va d'ailleurs chasser. On va voir César Borgia devenir peu à peu une sorte de mercenaire, un modeste condottiere au service d'un roitelet. Quant à Lucrèce, eh bien, Lucrèce, elle ne mourra, elle, qu'en juin 1519, après avoir donc longuement régné sur ce duché d'Este et avoir été une duchesse d'Este relativement comblée. Mais encore une fois, jamais elle n'aura oublié son deuxième mari, cet Alfonso, tué par son propre frère, ce frère qui était, je vous le rappelle, amoureux d'elle. Vous voyez que le débat qui va s'ouvrir dans un instant sur les Borgia promet un certain nombre de révélations et de coups de théâtre. Pour parler des Borgia, nous sommes en compagnie d'Henri Pigayem qui vient de publier donc aux éditions Télémaque un roman, mais un roman historique extrêmement fouillé, très sérieux, qui s'appelle La splendeur des Borgia et qui revient sur toute l'histoire, non seulement des trois personnages que je viens d'évoquer, mais de la famille, de la lignée, que dis-je, de la grande dynastie des Borgia.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 de The Borgias, bande originale de la série télévisée de Neil Jordan avec Jeremy Irons.
Voilà, c'est ça, Jeremy Irons qui joue le pape Alexandre VI, un pape extrêmement fin et retors, extrêmement séduisant, il faut bien le dire. Alors ça, c'est l'autre série, si je puis dire.
C'est pas celle qu'on va voir sur
Canal Plus à partir du 10 octobre prochain. C'est intéressant que notre époque s'intéresse à ce point à des personnages aussi sulfureux. Quand je dis notre époque s'y intéresse, évidemment, à l'occasion de la sortie de ces séries, les éditeurs y sont chacun allés de son titre. Lattès réédite le fameux Lucrèce et les Borgias de Geneviève Chastenay. Je vois que Claude Mosset également publie un roman en plusieurs tomes qui s'appelle Les Borgias, tout simplement, qui est sous presse apparemment, qui va sortir incessamment. Et puis donc Henri Pigayem, La Splendeur des Borgias. Vous nous présentez ça sous une forme que je connais bien pour l'avoir pratiqué moi-même pas mal, c'est-à-dire qu'on est dans le roman pour ce qui est de la forme, mais dans l'histoire pour ce qui est du fond. C'est une forme d'histoire romanesque, Henri Pigayem.
Oui, absolument. Enfin, je me suis quand même basé évidemment sur des documents complètement authentiques. J'ai romancé dans la mesure où j'ai...
Dans la forme, simplement. Hein, c'est
oui,
ça, dans la présentation
forme,
des choses.
Voilà, les descriptions, les dialogues, etc. Mais le reste est tout à fait authentique.
Alors, nous venons d'évoquer à très grands traits, hein, j'avais navigué entre divers types de documents parce que je voulais aller à l'essentiel. Nous venons d'évoquer la vie très romanesque de Lucrèce Borgia. Je pense qu'on peut dire maintenant que le personnage romantique du 19e siècle, et notamment de Victor Hugo, est assez éloigné de la vraie Lucrèce et se trouve presque en retrait par rapport à la réalité.
Oui, tout comme il l'a été d'ailleurs, enfin ça c'est entre parenthèses, pour Marion Delorme. C'est vrai que Victor Hugo n'était pas très, très, très informé de tout ça.
Pour Marie Tudor, en fait, etc.
Tudor aussi, ça j'ai pas lu Marie Tudor, mais je ne serais pas étonné. Non, Lucrèce Borgia n'est pas du tout le personnage sanguinaire qu'on a bien voulu faire croire qu'elle était. Elle était tout simplement le jouet, hein, ni plus ni moins, de son père et surtout de son frère. Son père, parce que ça l'arrangeait, tous ces mariages avec des gens puissants, et puis son frère parce que il y avait derrière des personnages puissants qui pouvaient lui apporter de l'argent pour ses conquêtes, notamment de la Romagne.
Alors elle a eu dans ta prime jeunesse, on pourrait presque dire dans son enfance, plusieurs soupirants, évidemment, et même deux ou trois promis. Ensuite,
elle
n'avait
peut-être pas eu autant que ça, ceci dit, hein, parce que ça, c'est pareil, ça fait partie un peu de la légende. Je crois que autant on dit qu'elle était inceste, ce qui est très certainement faux, autant on dit qu'elle a eu beaucoup d'amants, elle n'a pas eu autant que ça.
Alors, l'inceste avec son père, on fait une croix dessus,
oui,
ça c'est
oui,
de
oui.
la légende. L'inceste avec son propre frère César, vous n'y croyez pas non plus.
Moi, j'y crois pas. Enfin, j'ai rien en tout cas qui me le prouve. C'est sans fondement. Si je le disais, ce serait sans fondement. Non, je n'y crois pas. Je l'évoque, c'est vrai. Je cite des documents qui eux-mêmes les citent. Bon, c'était tout ça, c'est du populaire, c'est du blabla populaire. Hein. C'était qu'on répandait dans les villes. Pardon.
Je dis on ne prête qu'aux riches.
Oui.
Et puis alors trois maris, un premier qui est quand même pas rigolo, Giovanni Sforza.
Non, comme tous les Sforza.
Oui. Ce sont des brutes un peu les Sforza, il faut dire.
Oui,
c'est
le sang italien. J'ai rien contre les Italiens, mais enfin, c'est le sang italien de l'époque, je vais dire.
Voilà.
Hein. C'est vrai,
les Borgia,
les Sforza. N'avaient rien à s'envier les uns aux autres.
Les Borgia ne sont donc pas italiens, eux sont bien espagnols d'origine.
Alors ils sont espagnols d'origine, ils sont originaires de Yativa, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Ils sont Calixte III, comme vous le disiez aussi.
Qui est le premier pape Borgia.
Voilà, est arrivé en France avec le futur Alexandre VI, c'est-à-dire Rodrigo ou Rodrigue. Bon. Et ensuite, ils se sont installés, ils sont devenus complètement italiens.
Romains, hein, ce sont des Romains.
Voilà, des Romains. Il n'y en a qu'un seul que vous avez évoqué très rapidement, et pourtant il a de l'importance. Surtout si on en parle tout à l'heure, c'est Juan Borgia qui lui passe sa vie entre l'Italie et la France parce que il a épousé une Espagnole sur la demande de son père et que il a été assassiné. Moi là, par contre, j'y crois. Ben justement, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que son frère avait tout intérêt à l'assassiner parce que il possédait tout ce dont il avait envie. Et lorsqu'il est mort, Juan, César a obtenu tout ce qu'avait son frère.
Donc César, une coïncidence. Apparemment, pour autant qu'on le sache, a fait assassiner beaucoup de personnages, mais notamment son propre frère, Juan.
Il l'aurait
hein, mais aussi donc son beau-frère, le petit Don Alfonso dont on parlait tout à l'heure, le Napolitain.
Oui, oui, bon, je suis moins sûr, mais bon, après on peut lui attribuer tous les crimes qu'on veut à partir de là.
Quel personnage est-ce, César Borgia ?
César Borgia, c'est évidemment de la famille le plus féroce, le plus cruel. C'est quelqu'un qui a envie de, qui est très avide de, d'un pouvoir imaginaire. C'est même pas.
Il est vraiment l'incarnation de cet homme politique froid et calculateur de la Renaissance, tel que Machiavel l'a imaginé dans Le Prince.
Hein. Ce qu'il veut, lui, c'est absolument être puissant quelque part. Il ne sait pas trop où, mais il veut être puissant. Il veut être puissant, il veut commander. Il n'a pas d'idée précise. La preuve en est, mais ça, il faut après lire l'Élixir des Borgia, particulièrement le mien, bien entendu. Son père lui dit un petit peu ce qu'il a à faire. La Romagne, c'est une idée de son père.
C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une hydre à deux têtes, avec ce pape extrêmement intelligent, très fin politique, qui a besoin d'un bras armé immédiat, qui peut tout de même pas aller tuer les gens tous lui-même en tant que pape, sauf ferait tâche là. Et donc qui utilise son propre fils.
Oui, mais paradoxalement, si vous voulez, Alexandre, lui, il n'a pas besoin de la Romagne, par exemple, pour en revenir à la Romagne. Tandis que
César, oui.
César, il en a besoin, mais encore une fois, il veut gouverner quelque part. Et Rodrigo, et ça c'est important de le souligner, adorait
Rodrigo, c'est donc le futur pape Alexandre VI. Hein.
Bon, alors on va dire Alexandre VI, oui, ce sera plus pratique. Rodrigo adore ses enfants, il adore Lucrèce, il adore Juan. Il a d'ailleurs été très, très, très malheureux à la mort de Juan. Il aime passionnément aussi César, il fait tout pour eux, et tout ce qu'il fait,
c'est un pater familias, ce pape.
Oui, absolument, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, je dirais même qu'il est presque devenu pape pour ses enfants.
Il faudrait aussi parler de ses relations avec la mère de ses enfants, enfin tout ça est complexe.
Oui,
c'est quand même un sacré sac de nœuds, cette Rome des Borgia.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Lucrezia Borgia, extrait de l'opéra de Gaetano Donizetti, interprété par Montserrat Caballé, Franck.
Ce qui est assez frappant, c'est que l'histoire de cette famille connaît un tournant terrible avec la mort d'Alexandre VI. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à partir du moment où le pape n'est plus là, la famille se délite quand même singulièrement, et notamment César n'est plus grand-chose.
Absolument. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois Alexandre VI mort, tout d'un coup, il n'est non pas plus rien, mais le pape qui succède à Alexandre, Jules III, oui. Profite largement de son pontificat pour c'était Jules XIII,
c'était Jules II qui suit
Jules II, Jules
c'est
II,
Jules II.
Bon. Profite largement de la mort d'Alexandre pour faire ce qu'il veut de César, et là on voit qu'il n'est plus grand chose, qu'il essaye de rallier ses troupes, quelque part.
Oui, il devient une sorte de mercenaire et il meurt d'ailleurs assez
mercenaire,
vite
mercenaire au lui-même. Sens péjoratif du terme.
Ouais.
Et il meurt, oui. Il meurt, j'ai presque envie de dire, comme il a vécu, c'est-à-dire sans bravoure, autant il l'était au temps de son père, autant vers la fin c'était pas le cas. Il est mort dans une embuscade. Les gens qui l'ont tué ne savaient pas que c'était lui, et c'est son écuyer qui a reconnu ses éperons.
Est-ce que la famille meurt avec lui ?
Non. Alors ça, justement, vous faites bien de me poser la question, parce qu'on a toujours le sentiment que l'histoire des Borgia s'arrête
avec César.
Voilà, avec la mort de César. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque d'abord, il faut savoir qu'un peu plus tard, les Borgia vont tout simplement devenir en quelque sorte français, puisqu'ils vont s'unir aux Lorraine Guise.
La famille de Guise, nos célèbres
voilà,
Guise, les Ligueurs.
Guise, oui. Voilà, sa fille à César, qu'il n'a jamais vue, qu'il n'a jamais rencontrée, parce qu'il n'a jamais voulu la rencontrer.
Comment s'appelait-elle, elle ?
Louise.
Louise Borgia. Louis,
et non pas Louisa, elle était complètement française, puisque c'était la fille de Charlotte d'Albret, la fille du grand d'Albret, une grande dynastie. Et Louise... Louise Borgia vivait à la cour de France après la mort de César et ensuite après la mort de sa mère qui est survenue relativement tôt.
Et Francisco, à la même époque.
Et Francisco, mais il y a eu aussi une autre, alors ça, elle était complètement italienne, c'était Angela Borgia. Mm-hmm. Angela Borgia, c'était, elle a traversé rapidement l'histoire des Borgia, je dirais. C'était une cousine de Lucrèce, pas très lointaine d'ailleurs. Elle était très belle, elle faisait beaucoup de jaloux et elle faisait notamment des jaloux chez le. Alors elle avait une liaison avec Julio d'Este qui était l'un des frères du duc d'Este et donc un beau frère de Lucrèce. Voilà. Oui. Et le jaloux en question, c'était un autre frère qui s'appelait Ferrante, qui était si jaloux justement que pendant une partie de chasse, il lui avait fait crever les yeux. Ça les avait amenés en prison. Bon, ensuite ils ont été relâchés, ils ont fomenté contre leur frère le duc et puis ils sont retrouvés en prison cette fois pour de bon, l'un pour 20 ans, l'autre pour 40 ans. Et au début de l'emprisonnement de Julio d'Este, Angela venait souvent provoquer en cellule Julio. Alors bon, je vous disais tout à l'heure qu'on l'avait fait crever les deux yeux. Il y en avait un qui voyait encore un peu, qui était d'une mobilité effrayante, presque sordide. Il était en plus toujours au fond de sa cellule, entravé dans des chaînes d'à peine un mètre et pour empêcher qu'il puisse se mouvoir trop quand on allait lui rendre visite. Et justement, lorsque Angela lui rendre visite, c'était pour le provoquer, pour l'aguicher, pour lui révéler ses charmes.
Pour le narguer, en fait.
Oui, tout simplement, parce que c'était
un personnage. C'est elle qui était liée à Diane de Poitiers, Angela?
Non, pas du tout. Non, ça c'est...
Parce qu'on est bien avant, là, quand même. Hein.
Oui, oui, on est
30 ans plus tôt. Oui,
oui, on est avant. Et évidemment, bon, ça mettait Julio dans tous ses états. Elle venait régulièrement, et puis un jour, elle est venue faire le même scénario, et elle ne s'est pas aperçue que Julio ne portait plus ses chaînes. Et quelques temps après qu'elle soit rentrée dans la cellule, Julio s'est jeté sur elle et l'a égorgée, j'ai même presque envie de dire l'a étranglée, l'a égorgée puisqu'il s'est servi de ses ongles et elle est morte comme ça. Et qui lui avait retiré les chaînes, et c'est authentique, eh bien c'était Lucrèce qui avait fait retirer les chaînes parce qu'elle ne supportait pas le comportement de sa cousine.
Jolie conclusion à ce que nous venons de raconter. Henri Pigaïem, La splendeur des Borgia. Tome 1, Le pourpre et le fer. Tome 2, Les soupers du Vatican, et qui est en librairie déjà, Les soupers du Vatican
Le 16 octobre.
Le 16 octobre, voilà, à peu près en même temps que la sortie des téléfilms sur le même sujet. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour Henri Pigaïem. Alors si vous n'écrivez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment par un temps superbe? Le soleil, l'automne arrive, il y a une activité que les Français adorent, c'est le jardinage. Et que faut-il planter à cette saison? Eh bien si vous voulez le savoir, rendez-vous avec les experts Europe 1. Vous posez vos questions au 39 21 ou sur europe1.fr. Nos experts ont la réponse et on vous la donne tout de suite.
J'adore ça le jardinage, moi, mais j'ai pas le pouce vert, hein, je vous avoue.
Moi non plus, mais vous pouvez y arriver.
Restez bonne
avec
émission,
nous,
à demain.
Merci Franck, à demain sur Europe 1.